Accès libre.
Bonjour à toutes et à tous, ici Christiane Campagna avec vous en ce 2 novembre où j'ai vu des flocons en venant, même avant de partir très tôt ce matin. Alors aujourd'hui, à Accès libre, mais tout d'abord, aujourd'hui c'est la dernière d'Accès libre et c'est ma dernière à l'animation. On va vous en parler un peu plus longuement en fin d'émission, mais un nouveau magazine commence la semaine prochaine avec une nouvelle personne à l'animation, mais ce sera toujours un magazine où on prendra le temps de parler avec divers intervenants d'accessibilité et d'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Mais aujourd'hui, on a quand même un programme. On va passer une heure ensemble. Tout d'abord, dans quelques minutes, on parlera des problèmes informatiques de la STM et surtout à quel point ça a affecté tout particulièrement les personnes en situation de handicap. On va en parler avec Linda Gauthier, qui est présidente du Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Ensuite, on parlera du rôle du travailleur social auprès des familles qui ont un enfant en situation de handicap. C'est un rôle qui m'intriguait, que je ne connaissais pas bien. J'en entendais parler et j'ai décidé pour cette dernière de briser le mystère. On va parler à Marie-Lou Boudreau, qui est travailleuse sociale au programme DITSA du CLSC de Verdun. Et enfin, justement, en fin d'émission, on vous présentera cette nouvelle émission et cette nouvelle personne qui l'animera. Mais auparavant, on va parler de musées et on fait ça tout de suite. Donc, pour parler d'accessibilité et d'inclusion dans les musées, pour faire l'état des lieux, on parle à Mme Aude Porceda, qui est professeure en gestion et organisation culturelle au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Mme Porceda.
Bonjour, Mme Campagna, ça va bien?
Ça va très bien, vous?
Oui, ça va.
J'ai eu envie de se faire ce sujet parce que je suis une ancienne guide. J'ai été guide en milieu muséal, principalement des lieux historiques, pendant une vingtaine d'années. Et dans mon souvenir, l'accessibilité des musées se limitait à avoir une rampe, des ascenseurs et des toilettes accessibles aux fauteuils roulants. Est-ce que ça a changé un peu dans les dernières années? Est-ce que, par exemple, on pense davantage aux autres types de handicaps, qu'ils soient physiques ou cognitifs?
Oui, ça a changé depuis quelques années, mais il y a encore quand même une grande présence de stratégies liées à l'accueil des personnes handicapées qui sont sur la gratuité des lieux et sur l'aménagement des espaces. Mais on constate qu'il y a une évolution à peu près depuis les années 2000 où on voit que la médiation a pris de plus en plus de place et a saisi l'opportunité d'aller à la rencontre d'autres types de publics. Donc on voit ça un peu émerger un peu partout dans le monde, mais on peut dire que c'est à peu près dans les années 2000. Avant ça, c'était beaucoup centré sur l'aménagement des lieux.
Et vous avez fait un atelier récemment avec des membres de la Société des musées québécois. Pour le Québec, où est-ce qu'on en est?
Au Québec, en fait, c'est un atelier aussi avec Société Inclusive, qui est un grand groupe de recherche. Au Québec, on en est actuellement à... Il faut être honnête, le Musée des Beaux-Arts de Montréal a pris le leadership de mon point de vue, mais c'est une grosse institution. Mais on a constaté dans l'atelier, on a essayé de voir un peu ce qui s'appelait accessibilité, que se passe-t-il dans les musées. On a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se faisaient dans les petits musées aussi. C'est sûr qu'ils ont des moyens limités, mais ils vont aller développer des choses originales comme des collaborations avec les artistes ou carrément faire un partenariat avec des associations qui sont liées avec le handicap et qui vont aller chercher l'expertise. On a ça, par exemple, il y a même aussi Kéroul qui donne qui valide l'accessibilité des musées. Puis le musée de Sherbrooke a été, par exemple, un des premiers à aller chercher ce petit ticket. Puis après, d'autres musées ont suivi. Mais on a, par exemple, dans le musée d'art contemporain de La Naudière, on avait une présentation de Christelle Renoux qui nous montrait comment ils ont créé un pôle recherche pour concevoir des outils sonores pour les personnes. Ils ont formé des médiateurs en langue des signes et ils travaillent avec des artistes pour aller chercher des enfants qui ont des problèmes aussi d'apprentissage, etc. Comme le Centre des sciences de Montréal, qui lui a carrément développé des boîtes à outils pour les médiateurs, pour aider les enfants qui ont des troubles d'apprentissage et pour mieux les adapter au niveau scolaire, des troubles de la communication, etc. Et pareil, on a le Musée national des Beaux-Arts de Québec, dans ce cas-là, qui est aussi en train de prendre une tangente majeure sur l'accessibilité. Je pense qu'il va bientôt être un lieu de rencontre pour toutes les personnes qui vivent tout type de handicap. Bien sûr, il y a l'accueil gratuit, mais ils travaillent actuellement sur les 18-30 ans qui ont des problématiques de santé mentale avec un projet qui s'appelle S'inspirer. Il y a Parcours sensoriel aussi. C'est un projet pour les personnes avec des déficiences visuelles. C'est une table sensorielle qui sont avec 7 stations interactives. Puis il y a d'autres projets comme Intergé pour les personnes âgées en situation d'isolement et des enfants. Ce que les musées recherchent actuellement, c'est vraiment d'être proposer des moments de répit par l'art, par la science, par l'histoire. Et on voit émerger, par exemple, le concept de Caring Museum. Et donc, c'est un peu cette idée que le musée n'est pas juste un lieu où on fait rencontrer on amène un visiteur devant une œuvre ou devant un espace ou devant une autre personne qui va faire de la médiation. On essaye vraiment d'inclure la personne, de lui faire vivre des expériences pour développer sa sensibilité, son ressenti, ses émotions, pour qu'il ait le développement aussi de son empathie, pour qu'il puisse rentrer en contact avec l'art, la science ou des autres disciplines comme l'histoire. Donc on est vraiment dans ce courant du Caring Museum là depuis quelques années qui est en train de se positionner. Puis ça s'inscrit dans l'idée que le musée, il y a le travail, il y a la maison, mais il y a aussi le musée ou la bibliothèque qui sont des lieux où on peut vivre des rencontres sociales avec soi ou avec les autres.
Le troisième lieu.
Ouais, exactement, le troisième lieu.
Qu'est-ce qui est le plus souvent l'élément déclencheur? Est-ce que c'est une demande du milieu? Est-ce que c'est une sensibilité de personnes qui sont en place?
Ça vient un peu des deux. Moi, quand je travaillais au Musée de la Civilisation, c'est vraiment... vous voyez, le Musée de la Civilisation, dès sa création, il avait créé une exposition je crois que c'était sur la surdité. Puis après, il y a eu un rue des apparences qui était plus global. Mais ça vient à la fois... C'est sûr, quand on a les dirigeants qui embarquent, ça va très vite. Et puis là, les choses se mettent en place. Pourquoi les sociétés d'État avancent vite? C'est parce qu'elles ont aussi des contraintes légales avec la loi, enfin la politique à part entière, et puis ils ont été obligés de faire des plans d'action, etc. Donc au début, c'était très administratif, mais dès qu'on a des gens qui vivent ça dans leur quotidien ou dans leur famille, ça va faciliter les choses. Mais on peut imaginer qu'il y a beaucoup de résistance, mais ce que j'ai constaté, c'est que les gens sont très créatifs dans les musées pour faire inventer des choses pour les personnes, quel que soit leur type de handicap. Les freins, c'est souvent ils sont trop créatifs et ça fait que ça tombe à côté ou ils connaissent pas vraiment c'est quoi la situation de handicap. Donc ils vont aller chercher des experts pour s'assurer que ça va coller. Et des fois, on oublie de tester avec ces personnes-là pour s'assurer qu'on répond bien à leurs besoins. Donc ça vient beaucoup du soutien de la direction, c'est sûr. Et puis ça vient de l'encouragement des équipes en place s'exprimer et puis créer pour ces personnes-là, tout en étant accompagnées pour pouvoir se remettre en question.
Vous avez parlé du fait qu'on oublie de tester avec les publics cibles. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un problème d'arrimage, ou en tout cas, est-ce qu'on pourrait en faire davantage pour un arrimage entre le milieu associatif du handicap et le milieu muséal?
C'est clair. Je sais que le Musée national des Beaux-Arts à Québec est en train de sonder tout son milieu associatif. C'est clair qu'il n'y a pas de communication. On avait fait une rencontre, café accessibilité au musée, la civilisation. Et on s'était rendu compte que les gens n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait dans nos murs. Des fois, il peut y avoir des obstacles qui sont liés à l'accès physique, parce que le transport, c'est loin, etc. Mais il y a un gros problème de communication. Les gens ne savent pas ce qu'on fait. Donc la communication ne passe pas entre... Même s'il y a des liens... On reste un lieu de visite et puis parfois élitiste. Les gens rentrent et puis n'osent pas trop venir et pensent pas que le musée est un lieu de sociabilité et puis de plaisir en fait. Donc problème de communication, problème d'image du musée et puis l'arrimage avec les associations, ils ont aussi la réalité, c'est beaucoup d'organisation et puis c'est pas si simple. Des fois quand on gère beaucoup de choses, on va choisir ce qu'on connaît bien et puis on s'assure que ça fonctionne.
Est-ce qu'il y a une méconnaissance de tout le bassin de visiteurs que ça pourrait représenter si on prend toutes les limitations fonctionnelles réunies et que donc ça vaudrait la peine parce que ça fait entrer des gens au musée?
Je pense que maintenant, je dirais, je pense que depuis quelques années, je vais dire peut-être depuis 2-3 ans, il y a une vraie prise de conscience du potentiel pour de ces personnes-là. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que si on adaptait pour les personnes avec tout type de déficience, que ça servait aux autres, en particulier pour les personnes âgées et pour les familles qui sont les principaux visiteurs des musées, en fait. C'est qu'on est toujours avec ces niches-là, puis on a du mal des fois à aller ouvrir vers d'autres. Mais là, il y a vraiment une prise de conscience, je pense, du grand bassin de ces personnes-là. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus se développer des programmes un peu partout dans les musées. Et même les petits, c'est ça qui est étonnant, qui ont des ressources très limitées et qui se donnent du mal parce qu'on a tous un enfant qui a un problème d'apprentissage, on a tous une personne âgée à côté de nous qui s'est cassée une hanche et qui ne peut plus marcher, etc. Donc que ce soit un grand ou un petit village, quoi. Donc maintenant les musées sont vraiment ouverts sur la communauté. Ils n'ont plus le choix de fonctionner comme ça. Et ils connaissent de plus en plus leur public, en fait, parce qu'il y a de plus en plus d'évaluations.
Et quand on pense à la population vieillissante, mais qui sera aussi peut-être une population, qui sera probablement une population à la retraite, c'est un bassin de gens qui ont le temps d'aller visiter.
Exact. Ça, c'est un gros enjeu, là. Mais il y a beaucoup de choses qui se font. Mais il y a même pour les petits, je me rappelle au musée de la civilisation, ils avaient fait un projet pour les nouveau-nés, enfin pas les nouveau-nés, mais tout petits. Puis il y avait des familles qui venaient avec leurs bébés et tout ça, mais on avait offert des horaires spéciaux le matin ou à des moments où c'était plus facile pour les petits-enfants et puis les parents. Et pareil pour les personnes âgées, ça c'est des gros axes de développement au niveau des publics.
Mais on invite les gens qui sont intéressés par la culture et qui sont en situation de handicap à contacter leurs institutions. Parce que, par exemple, au Musée des Beaux-Arts et au Musée Stuart, ici, il y a un programme de visite pour les personnes qui ont un handicap visuel et c'est suite à l'initiative d'une dame mordue de culture et qui a un handicap visuel. Donc, peut-être qu'il faut faire connaître ce besoin-là parce que s'ils ne vous voient pas, s'ils ne vous entendent pas, ils ne savent pas que vous êtes un bassin de visiteurs potentiels. Alors, Oporceda, merci beaucoup pour ces précisions.
Merci.
On aurait pu en parler encore très, très longtemps. On est deux mordus, mais c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que l'émission change, mais peut-être que vous aurez l'occasion de nous reparler à quelqu'un ici à Canal M. Merci beaucoup.
Merci encore pour l'invitation. Je suis bravo pour ce que vous faites.
Ton cœur est un rebord qui crie sa sphère. Avant de ramasser avec un flat, faudrait que tu passes au stade. Ton histoire se résume en un trait noir de goudron de carbone. Tu laisses dans un nuage qui grimpe dans les airs le monde qui s'étonne de te voir toujours.
Il n'y a pas de lien avec le gala de la disque d'hier, si ce n'est qu'il s'agit de musique québécoise. Mais j'avais décidé de me faire plaisir aujourd'hui avec cette chanson de Fred Fortin, 10$, tirée de l'album Ultramar. Oui, Ultramar comme le sens, mais Ultramar aussi comme en avoir. Ultramar, et là je vais faire un beau lien, parce que j'imagine que là, avec tous les problèmes qu'ont rencontré le transport adapté la semaine dernière, il y a des gens qui en avaient ultramar. Suite à un rançon logiciel, donc, la STM a connu de graves problèmes informatiques qui sont toujours pas complètement réglés d'ailleurs. Et ça a particulièrement eu un impact sur le transport adapté et donc sur les personnes qui l'utilisent. Et pour en discuter, pour faire le point, on parle avec Linda Gauthier, qui est présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC. Bonjour Linda.
Bonjour Christiane, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, merci.
Alors, revenons d'abord sur les faits. De quelle façon est-ce que la panne a particulièrement affecté les usagers du transport adapté?
Ben, écoute, c'est que ça a affecté... je vais dire, heureusement qu'on était en temps de pandémie, parce que ça aurait été sinon catastrophique, tu sais. Il y a quand même 11 000 déplacements par jour en temps normal. Là, il y a moins de déplacements, donc c'est... Puis, en quelque part, on respectait les réservations qui étaient faites entre le 18 et le 24 octobre. On respectait ces réservations-là pour les transports réguliers, parce qu'on avait réussi à mettre la main sur les listes de transports réguliers pour motifs médicaux et travail seulement. Alors, ça n'a pas eu trop d'effet à ce niveau-là, sauf que les gens qui avaient des nouveaux rendez-vous médicaux, à ce moment-là, c'est là que ça posait problème. Là.
Parce qu'on était dans l'impossibilité de prendre de nouvelles réservations.
Exactement, on ne pouvait pas prendre de nouvelles réservations. Fait que à ce moment-là, il fallait qu'ils se déplacent par eux-mêmes. C'est pas tout le monde, évidemment, qui prend le bus régulier. Et encore là, le bus régulier, en temps de pandémie, quand tu es en fauteuil roulant, je le répète, il y a encore malheureusement des chauffeurs qui veulent pas t'embarquer. Ça arrive encore. Or, et le métro, on n'en parle pas. T'sais. Fait que plusieurs se sont rabattus sur des taxis qui pouvaient payer eux-mêmes. Des taxis accessibles, bien évidemment, qui devaient payer eux-mêmes, c'est-à-dire, sauf que la STM ne remboursait pas les courses.
Donc, on parle de coûts engendrés pour ces personnes-là, pour les moyens alternatifs qui ont été utilisés. Est-ce qu'on sait s'il y a eu aussi des pertes de revenus reliées à des journées de travail perdues?
Absolument. Absolument. Nous, en tout cas, on en a eu, je ne sais pas le nombre, parce qu'évidemment, il y a une personne qui s'est adressée à nous. Elle a été 2 jours qu'elle ne pouvait pas y aller. Et pourtant, c'est un transport régulier. Fait que, c'était pas... Les listes n'étaient peut-être pas à jour, parce que putain, ça fait plusieurs années qu'elle travaille au même endroit. Elle devait être sur ces listes-là. Fait que j'imagine que l'ordinateur a... Je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, elle a perdu 2 journées de travail et son employeur ne veut pas la rembourser. La STM non plus. Et je tiens à préciser que pourtant, 88 % des transports, des déplacements sont effectués par des intermédiaires de taxi et la STM n'avait pas à les payer. Ces sous-traitants-là, ni plus ni moins, parce que c'est un cas de force majeure. Là. Fait que ça veut dire qu'il aurait pu, à tout le moins, rembourser les taxis et les journées de travail perdues à ces personnes-là.
Surtout que j'imagine que dans certains cas, c'est les mêmes véhicules, sauf que comme on l'a réservé avec le taxi régulier, là, il faut payer le plein prix au lieu de payer le prix d'un passage dans le transport en commun.
Tout à fait. Tout à fait. Fait que c'est ça qu'on trouve vraiment déplorable. Tu sais, je dis pas que ça leur a pas occasionné du travail bien des casse-têtes et tout ça, sauf qu'en quelque part, ils ont pas payé ces gens-là puis ils veulent pas rembourser. C'est ça que je trouve qu'il y a pas de... Je trouve ça vraiment malheureux.
Vous les avez contactés, la STM?
Non, c'est eux autres qui nous ont contactés.
Alors, c'est la STM qui vous a contactés?
Oui, c'est eux autres qui nous ont contactés. C'est la haute direction qui nous a appelés. Je sais pas si... À cause du recours collectif qui avait peur qu'on en rajoute une couche, j'ai aucune idée. Mais non, quand même, on est quand même en bon terme, on est capable de se parler. Là. Ils nous ont avisé même des fois plusieurs fois par jour. À tous les jours, on avait des nouvelles. Puis on tentait de mettre ça le plus possible, tu sais, sans vouloir alerter trop de monde. Mais on donnait des nouvelles un petit peu par notre page Facebook et... Les gens qui s'adressaient à nous, on était capable de leur dire qu'est-ce qu'il y en était, là. Mais c'est pas tout le monde qui s'adresse à nous. Fait que c'est... J'ai trouvé ça... en tout cas, un petit peu, comment je dirais bien ça, c'est
un petit peu arrangez-vous avec vos troubles.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il faut considérer que, comme je disais tantôt, le transport régulier, là, c'est pas tout le monde qui le prend. Fait que c'est. Il y a même une dame qui s'est adressée à nous. Elle avait pas tenté d'avoir un taxi, puis à la place, une vanne adaptée, c'est-à-dire la place, l'intermédiaire où elle s'est adressée. Ils ont dit, ben écoutez, il faudrait nous appeler 24 heures à l'avance. La STM nous avait dit le contraire. Elle nous avait dit que, comme il n'y avait pas de contrat, il devrait être sur place presque automatiquement. T'sais, à partir du moment où tu l'appelles, il va être chez vous, en tout cas, à tout le moins, en dedans d'une demi-heure. Fait qu'elle, elle était obligée de dire, ben, je prends pas mon quadriporteur, je vais prendre mon déambulateur, puis elle a pris une berline. Mais ça, c'est quelqu'un qui est capable de se déplacer un peu en faisant quelques pas, là, tu sais.
Donc, on constate qu'il y avait là aussi un problème de communication qui découle probablement de l'absence totale d'un plan B.
Oui.
Si ce genre de situation-là survenait.
Exactement.
Est-ce que vous comptez pousser ça un peu plus loin, ce dossier-là, de faire rembourser, de prendre des recours?
Absolument, absolument. Parce que c'est des choses qui sont arrivées. Ben nous, on a, je vais le dire, là, on a remboursé certains de nos membres, OK? Ben certains ceux qui s'étaient adressés à nous pour les pertes occasionnées, taxis, et tout ça, puis on entend bien, quand la tempête va être passée, là, on va s'adresser à STM, on voudrait bien qu'ils nous remboursent. Sinon, ben je pense qu'en quelque part, il y a une grosse discrimination qui est faite, là. Tu sais, quand même, là, ils peuvent pas...
Oui, ben on s'en parlait l'autre jour au téléphone. Moi, le seul inconvénient, c'est que je devais procéder autrement pour connaître l'horaire des autobus. Et avec Google Maps, j'y arrivais. La STM, dans ses communications, parlait aussi d'applications. Mais là, sait-on si ces applications-là sont toutes accessibles, si tout le monde a un téléphone intelligent? Il y a tout ça aussi comme conséquence.
Exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu pour ça que la STM, je l'apprécie, là. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on m'a téléphoné à tous les jours. Puis pour me mettre au courant parce que il y a peut-être peur qu'on fasse un move pour dire en bon québécois pour les blaster. Je sais pas. Mais en tout cas, on a eu quand même un bon concours, là, je dirais. Puis c'est pas normal que ça soit juste nous autres, puis peut-être le RUTA qui a été contacté. Parce que t'as des membres qui vont, je sais pas moi, qui voudraient avoir ça, tu sais, sur Facebook ou sur la page. Tu sais, donner un message, un communiqué clair à la télévision, il y avait rien trop tôt qui parlait du transport adapté non plus. Ils en parlaient, mais du bout des lèvres, tu sais. Fait qu'ils n'ont pas vraiment mis la population qui était concernée au courant, là.
Melinda, on va suivre ce dossier-là de près. On en reprendra des nouvelles pour savoir qu'est-ce qui arrive avec ces démarches-là. Et puis, on va voir, peut-être qu'on vous reparlera. J'ai reçu un communiqué du Rapplic ce matin là, concernant un nouveau rôle que vous aurez pour appliquer la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. On va s'en reparler, Linda.
Parfait. Ben, merci, Christiane.
Merci, à la prochaine.
Au revoir.
Et je voulais aussi, parlant de dépenses encourues, La pandémie en a encouru pour plein de gens. Et une information importante, là, moi, je la tire du site de Mémo Québec, c'est qu'il y a une prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 pour s'inscrire au crédit d'impôt pour personnes handicapées afin de pouvoir faire la demande pour recevoir le versement de 600 $ du fédéral. Alors, c'est très important. Il y a des étapes à suivre. Tout d'abord, justement, remplir ce formulaire-là, le T2201, qui est le certificat pour le crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Vous remplissez la partie A vous-même et la partie B est à faire remplir par un médecin ou par un infirmier, infirmière, praticien. Et ensuite, il faut acheminer ce formulaire-là à l'Agence de revenus du Canada par la poste ou en ligne via mon dossier ARC. Et une fois que vous avez reçu la confirmation que vous êtes bien inscrit, vous pouvez faire une demande pour recevoir le paiement unique de 600 $. Et c'est une belle occasion de se rappeler que qu'être admissible à ce crédit d'impôt peut vous favoriser l'accès à d'autres programmes. Alors, même si vous n'avez pas un gros revenu, ça vaut la peine de demander ce crédit d'impôt-là quand même. Notamment, ça vous donne accès au régime enregistré d'épargne à invalidité, à l'allocation canadienne pour les travailleurs et la prestation pour enfants handicapés. Alors, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Un petit message pour les étudiants, particulièrement les étudiants de petite taille. Puisque sur le site de l'Association québécoise des personnes de petite taille, on peut lire que grâce à la généreuse contribution de M. Jean-François Boulet, ils ont pu lancer une bourse à son nom d'un montant de 1 000 $ qui est destinée aux étudiants qui ont une forme de nanisme et qui sont inscrits dans des programmes collégiaux ou universitaires au Québec. C'est une bourse qui vise à encourager la poursuite des études supérieures. Vous êtes invité à déposer votre candidature jusqu'au 20 novembre 2020 et l'annonce du récipiendaire aura lieu au début de l'année 2021 lors d'un événement spécial. Vous faites parvenir donc ça. Et si vous voulez des informations supplémentaires à la permanence de l'Association québécoise des personnes de petite taille à info@aqppt.org. Alors, ça nous amène à la fin de cette première partie. Au retour, on va discuter du rôle des travailleurs sociaux auprès des familles dont un enfant est en situation de handicap et on découvrira quel est le nouveau nom de l'émission et qui est la nouvelle personne qui va l'animer.
Vous écoutez Accès libre.
Et Christiane Campagnan est avec vous en cette dernière d'Accès libre. Donc, à compter de lundi prochain, un nouveau magazine avec un nouveau nom. On vous en dit plus dans quelques instants. Mais tout d'abord, ce qu'on voulait, c'est en connaître davantage sur le rôle d'un ou d'une travailleuse sociale auprès des familles qui ont un enfant en situation de handicap. Et pour ça, bien, on parle à Marie-Lou Bourdeau, qui est travailleuse sociale au programme DITSA du CLSC de Verdun, qui relève du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. DITSA, pour ceux qui seraient moins familiers avec les abréviations, on parle de déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme. Bonjour Marie-Lou, vous allez bien?
Oui, bonjour, ça va bien, merci.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'aime bien de temps en temps qu'on puisse mettre en lumière le rôle d'un professionnel qui travaille avec les personnes en situation de handicap. Il y a des rôles qui nous semblent plus évidents que d'autres. Et d'autres, celui-là, je savais que vous existiez, mais exactement quel est votre rôle, je ne le savais pas. Alors, tout d'abord, ce que je vais vous demander, c'est comment est-ce qu'une famille entre en contact avec une travailleuse sociale?
Oui, donc en fait, pour avoir un suivi avec une travailleuse sociale à l'équipe DITSA, il faut passer par le guichet d'accès DITSA-DP, donc déficience physique, qui va évaluer et orienter la demande. Donc pour ce faire, bon, il y a un formulaire de référence à compléter. Donc la famille peut se présenter au CLSC pour rencontrer un intervenant de l'accueil psychosocial qui peut le compléter avec eux. Sinon, ça peut être fait par d'autres intervenants là, qui travaillent auprès de l'enfant, par exemple le médecin de famille, le professionnel qui a posé un diagnostic, ou encore les intervenants de l'école. Ensuite, le guichet va orienter la demande soit vers les services spécifiques, donc la travailleuse sociale du CLSC, ou encore vers les services spécialisés là, qu'on connaît sous le nom de CRDT de Montréal, ou les deux selon les besoins.
Est-ce qu'il arrive que ce n'est pas la famille qui fait la demande, que c'est d'autres personnes qui les orientent vers vous?
Oui, ça arrive souvent que c'est d'autres personnes qui vont les orienter vers nous, mais c'est sûr que c'est toujours une démarche là, volontaire par la famille et l'enfant. Donc, il faut qu'ils soient en accord là, avec la demande de service.
Est-ce qu'il faut déjà avoir un diagnostic?
Oui, il faut déjà avoir un diagnostic confirmé de déficience intellectuelle ou de trouble du spectre de l'autisme pour avoir un suivi dans notre équipe. Pour les plus jeunes, donc les 7 ans et moins, un soupçon diagnostique, par exemple le TSA, va suffire, mais ils ne sont pas suivis dans mon équipe là, où nous, on suit les personnes de 7 ans et plus.
À partir du moment où vous faites la rencontre de la famille et de l'enfant, quel est votre rôle?
Oui, donc en premier lieu, tous les suivis vont commencer par l'évaluation du fonctionnement social de l'enfant et de sa famille, donc pour évaluer les besoins psychosociaux et ou de réadaptation et élaborer un plan d'intervention selon les besoins et les objectifs là, qu'on va avoir trouvés avec la famille. Donc en CLSC, en DITSA, le rôle du travailleur social consiste souvent en premier lieu, à agir comme intervenant pivot. Donc, on va agir comme personne ressource et on va être responsable des plans de services individualisés, donc de l'arrimage et de la liaison avec les différents partenaires impliqués auprès de l'enfant pour s'assurer que le rôle de chacun est clair et qu'on travaille tous dans la même direction. Ensuite, c'est sûr que le rôle du travailleur social va beaucoup varier selon l'âge des enfants. Donc, est-ce qu'on parle d'un enfant de 7-8 ans, d'un adolescent, d'un jeune adulte ou encore d'un adulte qui vit ou non avec ses parents. Donc, selon les besoins, on peut, par exemple, accompagner la famille dans le processus de deuil et d'adaptation face à un nouveau diagnostic. On va aussi soutenir le milieu et faire un suivi quant aux difficultés d'ordre psychosocial. On peut aussi accompagner la personne dans le but de défendre son droit à des services de qualité ou encore on va faire des démarches plus concrètes pour la famille. Par exemple, on va les orienter et les référer vers les bonnes ressources. On va les soutenir dans leur démarche pour l'obtention de subventions ou d'aides financières. On va les aider à faire une première demande auprès du transport adapté ou de faire une demande au programme de subvention soutien à la famille, donc pour obtenir une aide financière pour du répit. Ou encore, on va les accompagner pour l'inscription à diverses activités ou camps de jour. C'est sûr aussi qu'on accompagne beaucoup lors des périodes de transition, donc l'entrée à l'école, au secondaire, l'entrée à l'adolescence, le passage à la vie adulte. Et on peut aussi procéder à l'évaluation psychosociale en vue de l'ouverture d'un régime de protection lorsque la situation le nécessite.
Est-ce qu'on peut préciser juste un peu plus de quoi on parle quand on parle de besoins psychosociaux?
Oui, mais en fait, c'est qu'on va offrir un soutien là, pour des problématiques variées, par exemple des situations de violence, de négligence, d'abus financiers, d'isolement, d'itinérance, ou encore on va faire des suivis là, pour des difficultés liées au deuil, aux relations familiales difficiles, de la dépression, de l'anxiété. Donc, pour en nommer que quelques-uns qui reviennent là, souvent dans notre programme.
Est-ce que vous suivez les mêmes enfants longtemps ou les mêmes personnes une fois jeune adulte?
Oui, en fait, c'est sûr que ça va dépendre. Donc, nous, on va travailler en épisode de service. Donc, c'est sûr qu'on travaille de 7 à 100 ans. Donc, on va réévaluer les besoins là, minimalement une fois par année. Mais tant qu'il y a un objectif qui est identifié par l'enfant ou sa famille, on peut continuer à les supporter. Donc, il y en a que c'est des suivis qui sont plus court terme, donc de quelques mois, ou d'autres qu'on parle de suivi vraiment plus long terme sur plusieurs années.
Et votre rôle change donc selon les étapes de vie de la personne?
Oui, c'est ça, exactement. Puis on va essayer de les soutenir là, dans, à n'importe quelle étape de vie qui sont rendues.
Donc à chaque fois, vous êtes peut-être amené à travailler avec de nouvelles personnes, de nouvelles équipes de professionnels?
Oui, bien c'est sûr que comme nous, on travaille en co-intervention, là, à même le CLSC avec des éducateurs spécialisés et des auxiliaires familiales, mais c'est sûr qu'on va collaborer beaucoup aussi avec tout le personnel scolaire, donc enseignants, psychologues, psychoéducateurs, et là, nos jeunes là, vont fréquenter là, une diversité d'écoles. Et pour beaucoup de familles aussi, on va travailler en partenariat avec les services spécialisés là, de CRDTED que je parlais tantôt, donc le plus souvent avec des éducateurs spécialisés, puis on va collaborer aussi avec plusieurs organismes communautaires, donc des activités de loisirs ou d'intégration à l'emploi. Donc oui, effectivement, ça fait beaucoup de partenaires selon l'âge de l'enfant. Ouais.
Et ça fait tout un réseau. Au fond, vous êtes un pivot entre l'enfant et la famille et tout un réseau de services qui existe. Donc ça demande une très grande connaissance de ce réseau-là.
Oui, exactement. C'est sûr qu'on apprend un petit peu aussi. Des fois, les familles ont beaucoup à nous en apprendre aussi sur les partenaires ou les organismes avec qui ils font affaire. Mais oui, c'est sûr qu'avec le temps, là, on développe une bonne connaissance des ressources qui travaillent auprès des personnes en DITSA.
Je suis curieuse de savoir si, parce que je ne connaissais pas ce volet-là, parce que travailleur social, c'est très large, on peut porter toutes sortes de chapeaux. Et je me demandais si cet aspect-là du métier était abordé au cours de votre formation.
Non, malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas de formation ou de cours à proprement parler là, sur l'ADI ou le TSA au bac en travail social. Donc, vraiment pour le travail spécifique auprès de cette clientèle, on apprend vraiment sur le terrain. Je pense que c'est une clientèle qui est quand même assez méconnue. D'ailleurs, moi et une collègue, là, on aime beaucoup prendre des stagiaires là, justement pour leur permettre de se familiariser avec cette clientèle-là et peut-être de créer la relève aussi pour le futur. Là.
Donc, le seul lien entre la formation académique et ça, c'est si le hasard des recherches de stage amène la personne à travailler dans ce milieu-là.
Oui, c'est sûr que il y a certains cours là, à l'université qui vont être donnés sur l'ADI ou sur le TSA, mais ils font pas à proprement parler, là, à ma connaissance, du cursus scolaire du bac en travail social. Puis, en tout cas, moi, quand j'ai fait mon bac, c'était pas beaucoup abordé. Donc, oui, effectivement, c'est un peu le hasard, là, où des fois, on a des intervenants qui vont avoir, soit qui connaissent déjà une personne qui a une déficience intellectuelle ou un TSA, ou qui, par leur parcours de travail, on travaille dans des camps de jour plus spécialisés auprès de cette clientèle-là. Donc, eux, ils vont déjà avoir une connaissance un petit peu plus sur le terrain, puis ils vont être peut-être curieux de travailler comme travailleur social dans notre équipe.
De quelle façon est-ce que la pandémie a affecté votre travail?
Bien, c'est sûr que dans la première vague de la pandémie, il y a eu quand même beaucoup de changements. On a eu beaucoup d'intervenants dans nos équipes qui ont été délestés là, dans d'autres secteurs de services. Puis aussi, étant donné qu'on pouvait plus nécessairement là, faire des visites à domicile ou faire des visites dans les milieux de vie des personnes. Donc, il y a certains services qui ont été suspendus pour se concentrer vraiment là, sur les clientèles vulnérables puis faire des suivis téléphoniques réguliers là, auprès des personnes qui en avaient vraiment besoin.
Il y a des familles qui sont aussi retrouvées avec l'enfant qui ne va plus à l'école, qui n'a plus son service de répit. Est-ce qu'il y a du support que vous avez eu à apporter en ce qui a trait à ça?
Oui, bien, en fait, pour les plus jeunes, pour les enfants, il y a des services de répit là, qui ont été créés pour que ceux-ci puissent aller passer quelques heures par semaine à l'extérieur de la famille. Puis sinon, c'était pas nécessairement au CLSC, mais aussi, par exemple, les adultes qui fréquentaient des plateaux de travail qui ont fermé aussi, bien, dans ces plateaux de travail-là, ils ont aussi créé des services de répit de quelques heures par semaine là, où les gens qui en avaient vraiment besoin ou qui commençaient à développer certains problèmes de comportement là, pouvaient aller pour donner un certain répit à la famille. Puis nous, bien, on essayait, dans la mesure du possible, de continuer à les supporter. Puis on avait aussi, par moments, des auxiliaires familiales qui pouvaient aller sortir, prendre des marches, par exemple, avec les jeunes là, qui étaient à la maison.
En tout cas, je peux vraiment dire que j'en sais beaucoup plus qu'au début de cette entrevue, que je comprends vraiment beaucoup mieux votre rôle. Alors, Marie-Lou Bourdeau, travailleuse sociale au programme DITSA du CLSC de Verdun, du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Merci d'avoir accepté cette invitation à nous parler un petit peu de votre métier.
Parfait, merci à vous.
Les gens qui m'aiment sont innombrables. Je suis la colombe. Ils savent que mes ailes sont incassables. Jamais je ne tombe. Les gens qui m'aiment sont par milliers. Je suis leur corps, je suis leur ombre. Chemin de croix.
gens qui m'aiment. Les gens qui m'aiment.
Tiré de son plus récent album Le Silence, c'était Jimmy Hunt, qui est aussi le leader de la formation Chocolat, qui nous chantait « Les gens qui m'aiment ». Et là, ben, je vous titille avec ça depuis le début de l'émission, on est rendu là. C'était aujourd'hui la dernière de l'émission Tradosphère, un nouveau magazine avec une mission semblable. J'ai dit Tradosphère, hein? Oh, là, j'étais dans une autre vie, complètement. C'était le nom d'un magazine de musique traditionnelle à CIBL, je suis vraiment... C'était la dernière de l'émission Accès libre, vous voyez tout ça, c'est parce qu'on vit un moment important, historique. Alors, tout ça me fait faire des lapsus. Maintenant, je vais vous présenter le nouvel animateur de l'émission Sans détour. Vous connaissez sa voix parce qu'il était chroniqueur, pas plus tard que la semaine dernière à Accès libre. François Beauregard, bonjour François.
Bonjour Christiane, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de commencer la semaine prochaine à animer Sans détour. Sans détour, il faut voir ça des deux côtés de l'expression, parce que d'abord, on va essayer de parler sans détour et d'aborder les sujets sans détour, des choses qui nous touchent tous, qui vivons avec des handicaps de toutes sortes. Moi-même, je fais de la rétinite pigmentaire, alors j'ai des challenges, puis tout le monde, on a les nôtres. Et donc, on va parler sans détour, sans faux fuyant, des choses qui nous préoccupent avec les gens qui sont les acteurs dans ce domaine-là. Et sans détour, parce que c'est une question d'accessibilité aussi, parce qu'on rêve tous d'avoir une société où il n'y a pas de détour, une société où tout est accessible au premier clic, où on peut aller d'un point A à un point B sans, on parlait tout à l'heure du transport adapté, là, sans faire toutes ces... prêter, si je peux dire, à tous ces détours qui sont, enfin, finalement, non seulement coûteux, ennuyeux, mais moralement inutiles aussi. Alors, d'où le titre de l'émission Sans détour, titre dont nous devons la création à Christiane. Alors, je la remercie parce que c'est tout à fait juste comme titre d'émission. Alors, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir se parler. On va parler d'autres choses aussi que des questions immédiates d'accessibilité. On va parler de sport parce que moi, j'aime le sport puis j'en pratique. Alors, c'est sûr que ça me fait plaisir d'en parler. On va parler de santé mentale aussi parce qu'il y a des matins où on se lève puis on voit la neige qui tombe ou on entend le vent dans les arbres puis on a un peu le cafard, surtout à des fins de saison, mais partout tout autour de l'année, faut être capable de vivre notre vie d'une journée à l'autre. Alors, la santé mentale, c'est important. Et on va parler aussi de gens qui nous inspirent, de gens qui ont été capables d'aller au-delà des limites immédiates que la vie leur imposait. Et donc, en votre compagnie, nous allons passer une heure tous les lundis. Voilà.
Parle-nous un peu de toi, François, de ton parcours. Parce que les gens, déjà, ont pu t'entendre ici, aussi à Ami Télé.
Oui, tout à fait. La radio ou la télé, c'est un peu comme une deuxième partie de ma vie. J'étais plus jeune, journaliste. J'ai été journaliste financier pendant 4 ans au journal Finance au début des années 80. Je suis devenu par la suite courtier en valeur mobilière, planificateur financier. J'ai exercé cette profession pendant plus de 30 ans. J'ai rencontré des milliers de personnes en les aidant du mieux que je pouvais à les comprendre, mais aussi à faire ce qu'ils souhaitaient faire dans la vie. Et comme j'avais déjà été journaliste, bien, je suis revenu un peu à la télé en parlant de finances ou de planification personnelle, financière, au début des années 2000. Puis après ça, de fil en aiguille, je me suis retrouvé chez Ami Télé et Canal M par la suite. Parce que pour parler entre autres d'histoire, et ça, c'est un peu un retour aux sources parce qu'à l'origine, mon cours à l'université, je l'ai fait en histoire et en sciences politiques. Et c'est des sujets qui encore m'habitent et que j'aime bien partager avec les auditeurs au cours des petites chroniques histoires qu'on a faites. Je joue au hockey sonore, je suis un sportif. J'ai décidé un jour, après de quelques années de cafard, qu'il ne fallait pas que les limites que je m'imposais soient des limites. Il fallait plutôt que je passe au travers. Alors, le sport m'a beaucoup aidé à m'y retrouver, à faire le deuil puis à intégrer l'handicap dans ma vie. Et maintenant, je ne peux pas vraiment concevoir mon existence sans avoir le cœur qui me sort de la poitrine puis à suite à grosses gouttes. Pour moi, ça, c'est les moments préférés de la semaine. Voilà.
Et puis, on le disait tout à l'heure, friand d'histoire, malheureusement, on n'aura plus tes chroniques puisque tu seras l'animateur. On trouvera une façon. On trouvera une façon. Sache que tu as une recherchiste qui a une maîtrise en histoire.
Voilà.
Et un passé de guide, on en a parlé tout à l'heure. Mais là, on pouvait pas passer à côté. Demain, c'est l'élection américaine.
Tout à fait.
Et il y a quelqu'un dont tu n'avais pas eu le temps de nous parler encore.
Qui est tout à fait d'à propos dans le contexte. En fait, c'est la personne qui est au carrefour de Canal M et de l'élection présidentielle de demain. Je parlerai de Franklin Delano Roosevelt, président américain de 1932 à 1945. En fait, il est décédé au cours des premiers mois de son quatrième mandat. C'est après qu'il eut été élu quatre fois d'affilée qu'en fait la Constitution américaine a été amendée. C'est pour ça que maintenant c'est limite deux mandats. Alors, Roosevelt est un homme remarquable, plus grand que nature. C'est, à mon sens, bien humblement, un des plus grands personnages du 20e siècle. Famille de patriciens, il vient d'une famille vraiment très fortunée, des gens qui ne travaillent pas physiquement, là, qui ont tout cuit dans le bec. Au début de sa carrière, jeune avocat, Harvard, ainsi de suite, les meilleures écoles privées. Il n'a pas d'handicap, ça viendra plus tard dans sa vie. Il va être sous-secrétaire à l'amirauté dans l'administration Woodrow Wilson de 1912 à 1920, et il va être il est plutôt arrogant, puis un peu il y a pas grand chose qui est au-dessus de ses forces. Il est très très confiant dans ses moyens, mais il passe bien parce que il y a une personnalité charmante, agréable. C'est un excellent orateur et on lui promet un certain avenir politique, mais c'est pas une personne transcendante. Et puis, là, il est arrivé deux choses dans sa vie. À la fin de 1916-1917, bien qu'il était déjà marié, qu'il avait cinq enfants, il tombe éperdument amoureux d'une jeune femme qui travaille au même service que lui, à l'amirauté. Et là, ça va briser son mariage, mais son ambition politique est telle qui va accepter de laisser cet amour de côté, de vivre d'une façon tout à fait platonique avec son épouse Éléonore pour le reste de ses jours. Et il va complètement transcender cet aspect de sa vie plutôt vers le service d'autrui. À peu près quelques années plus tard, au début des années 20, il contracte la poliomyélite, qui est une maladie infectieuse, qui à ce moment-là est incurable. Il s'en retrouve paralysé des hanches jusqu'aux pieds. Et donc, à l'âge de 39 ans, il va avoir perdu, à toute fin pratique, complètement l'usage de ses membres inférieurs. Et malgré ça, il a une ambition politique dévorante. Il va réussir à se faire élire gouverneur de l'État de New York. Par la suite, il va être candidat à l'élection de 1932 pour le Parti démocrate. Et là, à ce moment-là, en 1932, les États-Unis sont aux prises avec la dépression. Le chômage est épouvantable. Il y a de la misère partout dans le pays. Et il va comprendre les gens ordinaires, bien que lui soit né avec une cuillère d'argent dans la bouche et ait vécu à peu près toute sa vie dans une tour d'ivoire. Est-ce que ce soit les déconvenues amoureuses ou le fait d'avoir été frappé par la maladie et de s'être retrouvé en situation d'handicap, mais son empathie, sa compassion, sa compréhension de la souffrance des gens va changer cet homme-là. Et il va être capable, de par cette manière, d'être près des gens et de leur faire croire et de réussir à les faire croire que oui, il y a une solution puis qu'on peut sortir de la dépression économique des années 30. Et par la suite, c'est lui qui va être en fait le leader des alliés quand les États-Unis vont s'engager dans la Deuxième Guerre mondiale. Il va être le leader des forces alliées. Donc, il aura vraiment été un sauveur pour son pays au travers de la pire crise économique et par la suite de la pire guerre. Alors, et tout ça à quelqu'un qui était incapable de marcher, que les médias de façon très prude, évitaient de montrer dans des situations embarrassantes. Mais si on lit sa biographie, on s'aperçoit à quel point, au début de sa carrière politique, c'était vraiment une obsession pour lui. Il dit, il ne faut pas que les gens sachent que je suis handicapé. Ils n'auront plus confiance en moi. Mais il était capable de surmonter cette
obstacle. Est-ce qu'il a réussi à continuer à le dissimuler tout au long de sa carrière?
En fait, non, pas vraiment. Mais les gens, le discours était qu'il avait vaincu la polio. En fait, il était capable de marcher, mais avec des attelles ou des orthèses qui pesaient chacune une quinzaine de livres, puis c'était en fonte, ainsi de suite, avec des cannes. Mais le truc qu'il avait développé, c'était de s'appuyer sur le coude de deux très costauds gardes du corps à gauche et à droite, ou un à droite, puis de l'autre main, il tenait une canne. Il était capable de pivoter ses jambes inertes avec un mouvement un peu de gauche à droite et donner l'impression qu'il marchait. Mais ça demandait un effort considérable. Et pendant tout ce temps-là, il souriait. Puis, rendu au podium, quand c'était le temps de faire son discours, il s'appuyait évidemment très fermement avec la main gauche pour ne pas tomber. Puis avec la main droite, il faisait des saluts.
Ça demandait donc des tribunes, des pupitres qui...
Qui étaient solides, mais ça demandait surtout quelqu'un qui était solide, quelqu'un qui avait une confiance en la vie et qui était... en mission, on dirait aujourd'hui cette expression malheureusement un peu galvaudée, mais il se sentait responsable et il se sentait capable d'aider et c'était juste une question pour les gens de voir au-delà de cette limitation physique. Voilà.
Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui ce serait bon, quelque chose de beaucoup plus difficile, plus difficile à cacher, justement, avec les médias sociaux, la télévision omniprésente.
Voilà, bien, il n'y a rien qu'on ne connaît pas de la vie de nos politiciens aujourd'hui. C'est parfois même un peu gênant. Mais l'idée est qu'à ce moment-là, il y avait une sorte de compromission où les médias savaient, parce que dans ce moment-là, c'était la radio. Or, Roosevelt parlait très bien, était très éloquent. Alors, il s'adressait aux Américains tous les samedis soirs à la radio, et ça, c'est Fireside Chat. Et c'était une façon privilégiée pour lui de toucher directement son électorat. Mais surtout qu'en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas de télé. Alors, comment est-ce qu'on voyait le président? C'était des newsreels, ce qu'on appelait. C'était des films d'actualité. Alors, il y avait des gens qui filmaient littéralement les événements importants de la semaine. Et par la suite, c'était montré au cinéma. Hein? On voyait le film de l'actualité de la semaine avant le programme principal, avant le film qu'on allait voir. Alors évidemment, il y avait tout un travail de montage. Il y a encore des très rares archives où on voit Roosevelt qui sort d'une auto, mais vraiment péniblement avec l'aide d'autres personnes pour l'aider à se mettre debout. Et là, on voit un garde de sécurité qui se tourne vers la caméra avec un petit geste en voulant dire « coupez ». Et là, évidemment, l'image coupe. Alors, les médias, à ce moment-là, avaient compris qu'il fallait que les États-Unis aient confiance dans leur leader s'ils voulaient se sortir de la crise. Et ce n'était pas le moment d'en remettre et de faire douter les gens.
Voilà. Ce qui me fait penser à une situation complètement différente aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un dont je pourrais te parler en chronique à sans détour, qui est la sénatrice Tammy Duckworth, mm-hmm. qui est une vétérante de la guerre en Irak, je pense, et qui est mère, sénatrice et en situation de handicap, et qui a même été pressentie pour être colistière de Joe Biden pour l'élection de 2020. Alors, c'est peut-être un portrait qu'on pourrait faire, que je pourrais faire bientôt.
Tout à fait.
Nouvelle émission que tu vas animé. Alors, on rappelle, à compter de lundi prochain, même heure, même poste, oui. Comme on dit.
À midi. Midi
les lundis. Ce sera l'émission Sans détour. Je serai de retour à l'arrière, dans les coulisses, à vous...
Et partout à la
trouver
fois,
des invités,
pas.
Mais au micro, à la chronique de temps en temps. Alors, François Beauregard qui sera avec vous dès la semaine prochaine. Mais merci de m'avoir accompagné dans ces dernières semaines. Merci de m'avoir écouté. Et merci à Jean-Sébastien Laliberté à la console, qui est toujours un grand magicien et qui a un support inestimable quand on est de ce côté-ci de la vitre. Et à lundi prochain, tout le monde, pour l'émission Sans détour.